Crime et justice, la saga judiciaire de Midi Libre. Un récit écrit et raconté par François Barrère de la rédaction de Midi Libre.
Avril 2007, l'affaire Diane Missler, la veuve sulfureuse et le fusil à harpon. Un assassinat à la sortie d'une discothèque échangiste de la Grande Motte. Un amant rapidement arrêté qui avoue le crime et puis qui accuse sa maîtresse lorsqu'il comprend qu'elle s'est jouée de lui. Provocante, manipulatrice, Diane Missler a-t-elle organisé la mort de son mari ? Par deux fois, la justice a dit oui.
Je suis une chatte noire. Je retomberai toujours sur mes pattes.
Ce 26 juillet 2007, au téléphone avec l'un de ses multiples amants, Diane Missler, 40 ans, joue avec le feu en y prenant plaisir. Cette malgache à la silhouette gracile et aux lèvres charnues sait qu'à l'autre bout du fil se trouvent aussi les gendarmes qui écoutent et enregistrent à l'affût du moindre faux pas. Elle s'en régale et provoque.
J'ai envie que tu me prennes sur place. Oui, comme une chienne enragée. Si mon téléphone est sur écoute, il doit bander le mec. Ce soir comme ça au moins, sa femme sera contente.
Le ton est donné. 3 mois plus tôt, son mari, Paul Missler, 60 ans, l'ex-directeur de la banque Dupuis de Parseval à Montpellier, a été sauvagement tué à la sortie du Vénusia, un club échangiste de la Grande Motte que fréquentait le couple depuis 10 ans. Vers 3h30 du matin, un homme a tiré un coup de harpon dans le dos du sexagénaire avant de le massacrer à coups de couteau. Les cris du malheureux réveillent une voisine, malgré ses boules quiesses. Cela provenait des tripes. Il provenait d'un homme qui semblait souffrir énormément.
« Moi, j'étais trop loin pour voir. »
explique Diane au gendarme qui l'interroge dans la nuit. Elle s'était attardée pour uriner sur une pelouse.
« Je me suis précipitée vers mon mari, après l'avoir entendu crier « Au secours !»
Il est trop tard. Touché de 20 coups de couteau, dont 2 mortels, Paul Missler meurt avant l'arrivée des secours. Quelques minutes plus tard, une patrouille arrête un homme qui tente de se cacher derrière une voiture. Franz Diegelmann, 41 ans, barman, est couvert de sang.
« C'était un maquereau !»
lâche-t-il quand on le place en garde à vue. Interrogé, il explique être l'amant de Diane depuis 2 ans, une femme que son mari, violent, martyrise, en l'obligeant à se donner à d'autres hommes, parfois pour de l'argent.
« J'avais l'intention d'attendre Paul à la sortie du club pour lui casser la gueule. J'ai pété un câble. Je ne supportais plus ce qu'il faisait endurer à Diane. Je suis très amoureux d'elle. Je pense que c'est réciproque. » Elle était en instance de divorce et nous avions projeté de vivre ensemble.
Pourquoi aller à la rencontre de Paul avec un harpon et un couteau puisque vous vouliez juste le frapper, demandent les gendarmes.
Je n'avais pas l'intention de m'en servir. Je voulais l'impressionner.
À l'issue de sa garde à vue, Franz Diegelmann est écroué pour assassinat. Mais les enquêteurs s'interrogent sur ses déclarations. Car Diane, qui gère un magasin de chaussures à la Grande Motte, acheté par son mari, décrit un tout autre paysage amoureux. C'est à la demande de son mari qu'elle aurait pris Franz comme amant, explique-t-elle un mois plus tard.
Mon mari était excité par le fait de me voir avec un autre homme ou une autre femme. J'ai eu des relations avec Franz en présence de mon mari qui est resté passif, mais qui nous regardait. C'était notre choix de vie. L'échangisme, je n'ai jamais été obligée. Je l'ai fait pour faire plaisir à mon mari. Pour moi, c'est une preuve d'amour.
Le couple d'amis avec lequel ils ont partagé ce soir-là le coin câlin du Vénusia confirme. C'était à chaque fois Diane qui choisissait les couples, indique Anne-Marie. Diane était très souriante et le couple paraissait très complice, confirme la tenancière du Vénusia. Il y a pourtant des traces de discorde. 2 ans plus tôt, chacun des époux a déposé plainte contre l'autre à 1 mois d'intervalle. « Il m'a frappé », a dit Diane. Elle m'a mordu et griffé, a affirmé Paul, certificat médical en main. Certains de ses amis témoignent. Il envisageait de divorcer face aux mensonges et aux dissimulations de son épouse, très dépensière, qui disparaissait des week-ends entiers vers des destinations inconnues et qui, pensait-il, le trompait. Alors on la place sous écoute pour en avoir le cœur net. Et les gendarmes tombent des nues. Près de 3000 coups de fil en 3 mois. Un séjour en Suisse pour un job dans un bar à hôtesse qui ressemble à de la prostitution. Des week-ends à Paris, presque chaque semaine, pour y retrouver à tour de rôle au moins 4 amants différents, dont 2 qu'elle fréquentait déjà avant la mort de Paul Missler. Tous ont un point commun, ils sont plus âgés qu'elle et plutôt fortunés. Le 16 octobre 2007, le juge convoque Franz Diegelmann et met les pieds dans le plat. Il lui parle des autres amants de Diane et de l'amour qu'elle revendique pour ce mari qu'elle ne voulait pas quitter. Alors, qu'en pensez-vous ?
C'est une belle claque dans la gueule que je prends. J'ai été un pauvre con. L'amour est aveugle. J'en ai été un bel exemple.
Mais alors était-elle complice de l'agression de son mari ?
Elle ne m'a jamais demandé de le faire.
Un mois plus tard pourtant, Diane est arrêtée et placée en garde à vue.
J'aimais mon mari. Je n'ai jamais demandé à Diegelmann de tuer mon mari.
Mais alors quel sentiment aviez-vous à l'égard de Franz ?
Absolument aucun. C'était juste un partenaire de jambes en l'air.
Diane est pourtant mise en examen pour complicité d'assassinat, mais elle échappe à la prison. Elle est laissée sous contrôle judiciaire. En décembre 2007, Franz Diegelmann est à nouveau chez le juge. Et il raconte une toute autre version que celle du départ.
Diane m'a demandé de tuer son mari,
affirme-t-il. Depuis un an, elle cherchait un moyen. Elle testait des scénarios pour échapper à ce tyran dépravé. Une piqûre pour faire croire à une overdose. Une agression dans le noir sur un parking. Un meurtre au couteau, suivi d'un incendie de sa maison.
Le mardi, elle m'a dit que Paul l'avait averti que le week-end suivant, ça allait être chaud pour son cul.
C'est elle qui lui aurait dit où se placer, près du Vénusia, pour attendre dans l'ombre la sortie de Paul Missler. Et pour étayer ses dires, il rappelle l'existence de ce plan des lieux saisi lors de la perquisition effectuée chez lui.
Ce schéma est de la main de Diane. Elle m'a dit « T'as intérêt de le faire. Déjà que cela ne me fait pas plaisir d'aller me faire tripoter. »
Tu lui mets un coup de harpon. Si cela ne suffit pas, tu l'achèves à coups de couteau.
Parole de l'un contre parole de l'autre. Le 27 juin 2008, les deux amants sont confrontés dans le bureau du juge. Alors, avez-vous eu des relations sexuelles à trois ?
Oh oui, on l'a fait à trois. Des partouzes !
Assure Diane.
Mais non, ni en présence de son mari, ni à trois !
Réplique Franz.
Je n'ai jamais eu de relations homosexuelles avec qui que ce soit.
Mais oui, mon mari est bisexuel.
Coupe Diane. Dialogue de sourds. Et conclusions divergentes. Pour les gendarmes, les mensonges incessants de Madame Missler ou son refus de s'expliquer sur les points la mettant directement en cause font naître un important faisceau de présomptions à son égard, écrivent-ils le 1er avril 2009 dans leur rapport de synthèse qui conclut à sa responsabilité dans le crime. Mais le juge n'est pas d'accord. Si Diane Missler apparaissait portée par ses mensonges et son inconséquence la responsabilité morale de la mort de Paul Missler, il n'est pas démontré qu'elle ait eu un dessein criminel ni qu'elle ait incité en conscience Franz Diegelmann à accomplir ce dessein criminel.
Crime et justice, la saga judiciaire.
Pour elle, c'est un non-lieu, estime le magistrat. Le parquet fait appel et la chambre de l'instruction tranche en juin 2009. Diane Missler comparaîtra pour complicité d'assassinat. En avril 2011, devant la cour d'assises de l'Hérault, les deux anciens amants se déchirent. Diegelmann est formel et en rajoute sur ses déclarations antérieures. Elle m'a dit
« Il faut que tu trouves une solution. Tu dis que tu m'aimes et tu ne fais rien. À croire que quand je me fais prendre par d'autres hommes, ça t'excite. Ce soir, il faudra que ce soit la dernière fois qu'il bande. »
Pour moi, ça voulait dire qu'il soit assassiné.
Regard fier, verbe cru, quitte à choquer les jurés, Diane réplique.
Oui, j'aime le sexe. Oui, j'ai des amants. Mais c'est pas dans le code pénal. Au Vénusia, on n'y va pas pour enfiler des perles, mais pour baiser. S'il se fait des films, s'il s'enflamme, c'est son problème.
Il n'a pas de sous, vous le trouvez moche, et vous êtes avec lui pendant 2 ans. Pourquoi ?
Parce que j'ai envie de baiser et c'est pratique. Il est à côté du magasin.
Débat enflammé, audience à rallonge, le procès empiète sur le week-end de Pâques, épuisant des jurés effarés de ce qu'ils entendent.
Elle, c'est Eros et Euro, le sexe et l'argent.
Tonne l'avocat général Pierre Denier, qui réclame 22 ans contre
cette femme caméléon.
Et 18 contre
son petit soldat, son bras armé.
Maître Jean-Robert Fung jette toutes ses forces dans la bataille pour décrocher l'acquittement.
Mythomane, vénale, addict au sexe, manipulatrice, veuve joyeuse, princesse de l'échangisme. Oui, mais ça n'en fait pas une criminelle. On vous demande de la juger, pas de l'aimer.
Et la cour juge, lourdement, le 24 avril 2011. 25 ans pour Diane, 23 ans pour Franz. 6 mois plus tard, elle est dehors. Comme elle a toujours parfaitement respecté son contrôle judiciaire, ses avocats obtiennent qu'elle se présente libre à son procès en appel à Perpignan en octobre 2012.
« Là, j'ai peur »,
avoue-t-elle en larmes dans une interview exclusive donnée à Midi Libre.
« On m'a envoyé aux assises sans preuve et on m'a condamnée. J'ai mis des jours à réaliser que j'étais vraiment en prison. On m'a jugée sur ma façon de vivre, sur ma sexualité. Je veux qu'on sache que je n'ai rien fait et qu'on me foute la paix. Qu'on arrête de me montrer dans la rue en disant « Regarde, la tueuse ».
Elle a 7 jours pour convaincre, avec l'aide aux côtés de Maître Fung, de Maître Éric Dupont-Moretti, qui annonce d'emblée la couleur.
« Et alors ? On n'a pas le droit d'être débauché ? On n'est pas à l'église ici ?»
Devant la cour d'assises des Pyrénées-Orientales, le combat est féroce, intense, tendu, sans pitié.
« Il affabule. Il se monte le bourrichon. Il faut le faire soigner !»
lance Diane, dédaigneuse. « Il se fait le film, mais c'est vous qui l'avez réalisé, tourné et produit !» rétorque Maître Christol, en défense de Diegelmann.
« Je n'ai jamais suggéré, souhaité, voulu, demandé, commandité la mort de mon mari !»
réplique-t-elle en alignant les synonymes. Et elle s'en prend aux enquêteurs, coupable à ses yeux de ne pas avoir retranscrit toutes ses déclarations.
« J'ai été traitée comme une serpillière, comme une salope !»
Diegelmann, lui, ne bouge pas.
Je buvais ses paroles. Elle m'a manipulé, conditionné pour cet assassinat.
La projection des images de la vidéosurveillance du Vénusia, où l'on voit le couple sortir juste avant le crime, sème le trouble. Diane semble tout faire pour laisser son mari partir seul vers la mort. Dans une salle surchauffée, Maître Fung exhorte les jurés.
Vous êtes le dernier rempart contre la folie judiciaire qui est en train de se commettre.
Avant lui, l'avocat général a rappelé le mobile du crime.
Il y avait du divorce dans l'air. Et c'est impensable pour elle. Elle perd la garde de l'enfant et la maison à La Réunion à 600 000 euros. Et après, on dit que le dossier est vide.
Le 27 octobre 2012... Maître Dupont-Moretti tente de démolir à la batte de baseball les arguments de l'accusation.
On est dans du rien, dans du sable, dans des attitudes. S'il y a l'ombre de l'once d'un doute, on doit acquitter. Si vous la condamnez, c'est un assassinat judiciaire.
Le verdict tombe dans une tension extrême. Coupable, 15 ans pour Franz Diegelmann, 18 ans pour Diane Missler. Elle se lève, serre dans ses bras le jeune fils qu'elle a eu avec Paul Missler, venu pour cette ultime audience, et qui, après avoir perdu son père, voit sa mère partir en prison. Il pleure, à chaudes larmes.
« Sois fort! Sois fort !»
lui répète-t-elle. Et puis cette femme fatale, dont le regard de tigresse a fait chavirer tant d'hommes, sort avec son ancien amant, entre les policiers, vers la nuit carcérale. Ses avocats, furieux, quittent le palais. En annonçant un pourvoi en cassation, qui ne donnera rien, pour cette chatte noire, qui à la barre des assises, semble bien cette fois s'être brisé les reins.
Midi Libre.
Midi Libre. Les podcasts de MidiLibre.fr.